J'étais à Fribourg pour faire passer la licence d'un frère et de quelques petites sœurs. Alors ça fait des licences supplémentaires, vous voyez. Il n'y a pas eu de catastrophe. C'est la même. C'est bien. Nous allons continuer d'entrer dans Saint Thomas sur ce que représente le mystère de la personne. Vous voyez, le passage de la personne au point de vue connaissance humaine et le mystère de la personne. Alors, je vous renvoie aussi à cette petite étude que j'ai faite, l'anthropologie de Saint Thomas, 8 conférences publiées par le docteur Luyten, page, donc c'était une petite chose, page 124, c'était sur la personne dans Saint Thomas. Alors, ce n'est pas fait, vous voyez, directement avec une analyse des textes, c'est un peu plus libre que la topique que j'ai donnée dans les personnes, mais ça peut aider à comprendre. Surtout le passage sur personne et esprit. Parce que je crois que c'est cela que nous devons essayer de saisir. Je vous disais donc dans Saint Thomas, la dernière fois, je reviens un instant là-dessus, que très nettement, Saint Thomas, dans la Somme, et c'est dans la Somme et dans le De Potentia, les textes les plus importants de Saint Thomas, c'est les textes du De Potentia, où il montre que la personne doit être prise comme un absolu. Et que par le fait même qu'elle est prise comme un absolu, elle peut être attribuée à Dieu. Que la personne en elle-même n'implique aucune imperfection. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. La ratio personae. Qu'est-ce que c'est que la raison de personne? La raison de personne n'implique aucune limite, aucune imperfection. Vous voyez, c'est un petit peu comme la substance. Comment puis-je attribuer la substance à Dieu? Je peux attribuer la substance à Dieu parce que la substance implique quelque chose qui est un principe. Et donc, en tant que principe, dans l'ordre de l'être, pas un principe du mouvement. Je ne peux pas attribuer à Dieu un principe du mouvement. Alors, vous voyez, c'est là où, toujours, au fond, c'est très délicat quand vous dites Dieu a une nature. Parce que la nature, la phusis, implique un principe du mouvement. Il n'y a pas de mouvement à Dieu. Alors, c'est là où on fait une petite gymnastique habituelle aux clowns des cirques, n'est-ce pas? Et habituel aux théologiens, c'est-à-dire que on passe de la phusis principe du mouvement à la phusis essence, ce qui implique l'intelligibilité profonde de la réalité. Vous pouvez attribuer l'essence à Dieu au sens propre, tandis que la phusis principe du mouvement, non. Alors, parce que la phusis exprime aussi l'essence, vous pouvez l'attribuer à Dieu. Oui. C'est ça qu'il faut toujours bien comprendre, parce qu'il faut qu'on soit très lucide vis-à-vis des analogies qu'on attribue à Dieu. Il faut qu'on puisse toujours les justifier. On n'a pas le droit d'attribuer à Dieu quelque chose qui serait simplement, on attribue ça à Dieu parce qu'on doit l'attribuer à Dieu. Non. On attribue à Dieu une notion qui n'implique en elle-même aucune imperfection, puisque l'être Dieu est l'être premier qui implique l'être parfait. Donc je ne peux pas attribuer à Dieu une imperfection. La personne, et c'est comme ça que saint Thomas aborde le problème, hein, et il a tout à fait raison. Le mot personne n'implique en lui-même aucune imperfection, dans sa signification propre. C'est la notion de personne, oui, qui n'implique en elle-même aucune imperfection. Et c'est bien ce que saint Thomas, dans la Somme, essaie de comprendre, vous voyez, quand il justifie la définition de Boès en prenant quelque chose qui est beaucoup plus métaphysique, en montrant que le point de vue de la substance individuelle, l'hypostase, l'hypostasis, et c'est là-dessus que tous les pères grecs ont insisté, l'hypostasis, c'est-à-dire le sujet existant capable de recevoir des accidents et capable de poser des actes, l'hypostasis en elle-même n'implique aucune imperfection. Alors quand vous parlez d'hypostasis, vous parlez de l'individualité au niveau de la substance. C'est ça qu'il faut comprendre. L'hypostase, c'est l'individualité au niveau de la substance. Il y a une individualité au niveau de l'accident, il y a une individualité au niveau de la substance. Alors voyez bien toute la différence que je soulignais la dernière fois, toute la différence du langage de saint Thomas dans la somme et du langage de saint Thomas dans le point de vue des sentences. Dans les sentences, il a un souci logique. Et dans la somme, il essaie de comprendre le fondement métaphysique. La logique ne nous dit rien de Dieu. Et c'est ça que saint Thomas dit très nettement. Nous le verrons à propos de la... Vous le voyez à Saint-Jean, vous le voyez ici. C'est que à propos de la simplicité de Dieu, dans l'article, dans la question sur la simplicité de Dieu, saint Thomas montre que la logique ne nous dit rien de Dieu. C'est pour ça que c'est terrible de ramener tout à la logique mathématique. Parce que la logique ne nous dit rien de Dieu. Dieu n'est pas un être logique. Heureusement pour nous et pour lui. Dieu n'est pas un être logique. Il n'est pas un être de raison. Donc la logique ne nous dit rien de Dieu. Donc si vous restez uniquement au niveau personne pour justifier au niveau logique, vous ne pouvez pas l'attribuer à Dieu. Et c'est, je crois, ce que saint Thomas a très bien compris, au-delà de la tradition. Il y a un nominalisme avant saint Thomas et il y a un nominalisme après saint Thomas. Il y a un nominalisme avant saint Thomas, celui d'Abélard. Et un peu celui de Boès. Le nominalisme, c'est ramener tout à la logique. Alors c'est des définitions. Alors, il y a un nominalisme avant saint Thomas, il ne faut jamais l'oublier. Et il y a un nominalisme après saint Thomas. Et saint Thomas représente, et c'est ça qui est important à saisir, saint Thomas représente en face de ce nominalisme qui a pénétré dans la théologie. Alors, vous savez bien que saint Bernard a été farouchement opposé à Abélard. Aujourd'hui, je sais bien, on veut réhabiliter Abélard. On veut réhabiliter tout le monde. Alors on réhabilite tout le monde, on va réhabiliter Luther, c'est bien évident. On va tous les réhabiliter, très très bien. Ça fait partie de la mode d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on les fusillait tous. Alors, très bien, aujourd'hui on les réhabilite tous. Alors, il suffit de comprendre qu'entre eux, il y a le jugement de Dieu. Hein. C'est ça qui compte. Hein. Et que ce jugement de Dieu, personne ne le sait. Donc, si on réhabilite, très bien. Si on condamne, très bien. Il s'agit de se placer au-dessus et de comprendre que le jugement des hommes, lorsqu'il s'agit de savoir pour une personne ce qui est, c'est vrai que comme c'est difficile de savoir le rôle de Luther, comme c'est difficile de voir le rôle d'Abélard, comme c'est difficile de savoir le rôle d'Occam. Il y a des parentés, Abélard, Occam, Luther. Tout ça, c'est sous une certaine influence du nominalisme. Et Luther qui veut lutter contre le nominalisme. Sous ce point de vue-là, on est d'accord avec Luther. Donc réhabitons-le, puisqu'on est d'accord avec lui. Il a fait quelque chose de grand. Il a montré que c'était terrible le nominalisme. On est tous d'accord là-dessus. Il y a manière et manière de répondre. C'est la question. Mais en face du nominalisme, c'est vrai, le nominalisme enferme la théologie dans la logique. Alors, enfermer la théologie dans la logique, c'est effrayant. Abélard, Occam. Que fait saint Thomas? Et c'est intéressant, parce que ce que je vous disais, c'est intéressant à propos de la personne, parce que là, on est en face d'une définition logique de la personne par Boès. Et c'est la première définition. Parce qu'au fond, la personne, ça ne se définit pas. Vous ne pouvez pas définir la personne. Vous ne pouvez pas. Mais les nominalistes veulent définir. Toujours. La logique mathématique veut définir. Et tant que vous ne définissez pas, vous n'avez rien compris. Et vous n'arriverez jamais à faire comprendre à un logicien que vous pouvez comprendre sans définir. Ils n'arriveront jamais à comprendre ça. Parce que pour eux, il n'y a pas moyen autrement. C'est un formalisme poussé à l'extrême. Un rationalisme poussé à l'extrême. Alors, vous ne pouvez comprendre que si vous définissez. Non, l'intelligence a une possibilité de comprendre au-delà de la définition. Mais la personne est entrée en théologie par ce point de vue de la définition. Il ne faut pas l'oublier. Et alors, par ce point de vue de la définition, la personne est entrée en théologie, c'est sûr. Et saint Thomas essaie, pour pouvoir transposer la personne en Dieu, il essaie de montrer le point de vue métaphysique de la personne. Et quand vous montrez le point de vue métaphysique de la personne, vous montrez que la personne est au-delà de toute définition. Parce qu'elle implique quelque chose d'ultime. Parmi les réalités que vous expérimentez, la personne est la réalité la plus parfaite que vous expérimentez. Et je crois que c'est cela que saint Thomas veut nous montrer dans la Somme. Et surtout dans le De Potentia. Alors, dans le De Potentia, vous pourrez regarder dans le De Potentia les textes magistrales de saint Thomas du De Potentia, qui sont très intéressants du reste, parce que c'est peut-être là où saint Thomas montre le mieux cet absolu, cette perfection de la personne, comment la personne n'implique en elle-même aucune. C'est De Potentia, question 9. Hein. Dans le De Potentia, saint Thomas affirme que la substance, donc c'est dans le petit livre Anthropologie 151, note, je ne sais plus combien, c'est la note 60. Donc, dans le De Potentia, saint Thomas affirme que la substance qui est hypostase, la substance première, sujet des accidents, est plus proche de la personne que la subsistance. Cité ça dans De Potentia, que la substance qui est hypostase, substance première, sujet des accidents, est plus proche de la personne que la subsistance, puisque la personne exprime quelque chose qui est sujet, comme substance première, et non seulement quelque chose de subsistant, comme la subsistance. C'est très curieux, ce petit passage de saint Thomas. Hein? C'est la subsistance et la personne. C'est l'hypostasis et la subsistance. Je crois que c'est un lieu unique. De Potentia, question 9, article 2, la huitième réponse. D'autre part, saint Thomas affirme aussi, toujours dans le De Potentia, que la signification formelle de la personne, c'est le subsistant distinct dans telle nature. C'est le subsistant distinct dans telle nature. De Potentia, question 9, article 4. Saint Thomas avait également dit dans le commentaire des sentences que l'hypostase divine est ce qui est subsistant par soi, distinct et incommunicable. On voit donc comment, pour saint Thomas, le point de vue du sujet individuel et le point de vue de la subsistance, tout en étant distincts, sont intimement liés. Donc, sujet individuel et subsistance. Si nous regardons l'objection du De Potentia, dont nous avons cité la réponse plus haut, c'est-à-dire l'objection 8, nous voyons qu'elle porte sur l'attribution à Dieu de trois subsistances ou de trois substances. En affirmant dans sa réponse que la substance première est plus proche de la personne que la subsistance, saint Thomas veut simplement souligner qu'on ne peut pas séparer la subsistance de la substance première, car elle n'en est qu'un mode, Elle est sa propre manière d'exister. La personne est donc premièrement substance. La personne est premièrement substance et non pas premièrement subsistance, vous voyez? Et d'autre part, et là c'est là où c'est la chose très très délicate, la personne est quand même premièrement une manière d'exister en totalité. Ce que je crois. Une manière d'exister en totalité. Et donc, sous ce point de vue-là, ce n'est pas un mode comme la subsistance, c'est la substance première dans son exister. Quand vous dites personne, vous impliquez l'exister. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Quand vous dites personne, vous impliquez l'exister. Si vous impliquez l'exister, vous n'êtes plus au niveau d'un principe. Vous êtes au niveau d'une manière d'exister. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir en métaphysique. Ça, nous le verrons. Chez saint Thomas, ce n'est pas explicite. Ce n'est pas explicite du tout. Saint Thomas n'a jamais dit que la personne était un pose. Jamais. Il insiste sur substance première. Parce que pour saint Thomas, le TST et le pose, quand on est en théologie, la distinction est très très diminuée. Saint Thomas n'a pas jamais voulu faire une métaphysique pour elle-même. Jamais. Il a toujours, toujours traité de la philosophie en vue de la sagesse. Et en vue de la sagesse théologique. Donc il a télescopé des quantités de choses. C'est ce qui fait comprendre qu'on ne peut pas, on ne peut pas se servir directement, vous voyez, du point de vue de la somme théologique pour faire une philosophie. Parce que le point de vue de saint Thomas est très net. Ce qu'il veut faire, c'est de la théologie. Il ne veut pas faire de la philosophie. Il se sert de la philosophie, mais il ne fait pas de la philosophie. Tandis que nous sommes obligés de faire de la philosophie. Vatican II nous demande. Vatican II nous demande d'avoir un regard sur le monde. Il nous demande ça. Il ne nous dit pas regardez le monde dans la lumière de Dieu. Ça a été dit avant Vatican II, heureusement. Ça a été dit avant Vatican II. Regardez le monde dans la lumière de Dieu. Et Vatican II nous dit ouverture au monde. Donc, regardez l'homme. C'est très important de saisir ça. C'est très important parce que ça fait deux perspectives qui peuvent très bien, si je les prends comme absolues, si je prends Vatican II comme un absolu, à ce moment-là, je dirais, il n'y a plus qu'une seule chose à faire au point de vue apostolique, regarder l'homme et connaître l'homme. Attention, Vatican II doit s'interpréter en fonction de tous les autres conciles avant lui et de toute la tradition de l'Église. Et Saint-Pierre l'a dit. Saint-Pierre a dit, on doit interpréter Vatican II dans toute la lumière de la tradition de l'Église. Vatican II n'est pas une révolution dans l'Église. Non. C'est une précision nécessaire, mais c'est une précision. Et donc, il faut interpréter en fonction de tout ce qui a été dit avant. Alors, ce qui est dit avant, c'est un regard du théologien dans la lumière du Christ, dans la lumière du Père. Et Vatican II met un accent sur l'ouverture au monde. Je crois cet accent ouverture au monde veut dire soyez plus philosophe. Ne télescopez pas la démarche philosophique. Alors que si je suis pur disciple de saint Thomas, je télescope la démarche philosophique. Et que saint Thomas pourtant nous dit que la philosophie est sagesse. Mais on télescope la démarche philosophique, ça c'est très vrai. Puisqu'il regarde la philosophie uniquement comme Ancilla. On ne peut pas la télescoper mieux que la considérer uniquement comme Ancilla. Donc uniquement utiliser la philosophie en vue de la sagesse. En vue de la sagesse théologique. Alors, c'est particulièrement sensible quand on est en face de la personne. C'est normal. C'est normal que ce soit particulièrement sensible. Alors ça, il faut le sentir. Il faut essayer de le saisir, vous voyez ? Saisir. Je vous ai dit, faites cette petite étude dans saint Thomas, vous ne perdrez pas votre temps en faisant ça. Faites cette petite étude dans saint Thomas de voir qu'est-ce que saint Thomas nous dit sur la personne. À partir des sentences, en passant par le contra gentiles, en voyant le de potentia et en regardant le point de vue de la somme. Là, vous avez un petit travail personnel qui est très intéressant à faire. C'est dans l'année où on voit le point de vue de. le traité de la Très Sainte Trinité, c'est très important de faire ça. Et puis dans le monde d'aujourd'hui. Donc nous avions vu la dernière fois comment dans la Somme, saint Thomas insiste de nouveau. De plus, le particulier et l'individu dans les substances rationnelles qui ont un dominium sur leur acte, elles ne sont pas seulement mues, mais agissent par elles-mêmes, se réalisent selon un mode plus spécial et plus parfait. Donc c'est là où je saisis la qualité particulière de cette hypostase, la qualité particulière de cette substance individuelle. Cette substance individuelle, parce qu'elle est dans une nature rationnelle, parce que l'esprit intervient, alors elle a son dominium. Elle a le dominium sur ses propres activités. C'est pourquoi parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial, on les appelle personnes. Oui, il s'agit de la dénomination. Mais saint Thomas ne nous dit pas, parce qu'il n'est pas philosophe, parce qu'il ne veut pas faire de la philosophie, il ne nous dit pas l'agencement de la substance et de l'esprit. Alors c'est ça la difficulté. Alors ça ne nous le dit pas. Cherchez dans saint Thomas, vous ne le trouverez pas. Ils vont simplement ce qui est impliqué dans la dénomination de la personne. Quand vous dénommez une personne, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais tout le problème philosophique qu'Aristote avait très très bien saisi, c'est la phusis et le nous. C'est ça tout le problème. Alors je ne le traite pas ici, puisque saint Thomas ne le traite pas. Mais je le souligne. Je souligne que si vous regardez uniquement saint Thomas, vous ne trouverez pas une compréhension métaphysique de la personne. Vous ne la trouverez pas. C'est pour ça que c'est intéressant de faire toute l'analyse chez saint Thomas pour voir qu'on ne la trouve pas. Il faut donc, dans la définition de la personne in communi, poser la substance individuelle qui signifie le singulier, dans le genre de la substance, et ajouter deux natures rationnelles pour signifier le singulier dans les substances rationnelles. C'est le singulier dans l'esprit, dans les substances rationnelles. Voilà ce que c'est que la personne. C'est le singulier dans les substances rationnelles. La personne dans la nature rationnelle signifie ce qui est distinct dans cette nature. Ce qui est singulier, donc, distinct des autres, aliquid. C'est au fond aliquid. C'est le transcendantal aliquid que vous voyez réalisé de la manière la plus parfaite dans la personne. Pas seulement res. On dit que c'est aliquid. La personne dans la nature rationnelle signifie ce qui est distinct dans cette nature. Certes, le singulier ne peut être défini, il est ineffable, mais on peut préciser la raison commune de la singularité. Dans l'article suivant, nous sommes dans la Somme. Nous sommes dans la Somme, vous n'avez qu'à question 29, article 1er. Ici, nous prenons l'article 2. Dans l'article suivant, saint Thomas montre comment personne signifie dans le genre des substances rationnelles ce que res nature subsistentia et hypostasis signifié dans le genre des substances. Vous allez bien comprendre. Dans l'article suivant, saint Thomas montre que comment personne signifie dans le genre des substances rationnelles ce que res nature, et je prends exprès ces termes de saint Thomas, res nature subsistentia et hypostasis, signifié dans le genre de la substance. Res nature, subsistentia, hypostasis, c'est dans le genre de la substance. Et alors, il y a coïncidence entre les deux, vous voyez, c'est ça qu'il faut bien saisir. Vous avez le genre substance. Donc, le genre substance. Dans le genre substance, vous avez res nature, subsistentia, hypostasis. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la substance individuelle. Aliquid. À l'écoute, c'est toujours une substance individuelle, reste naturelle. Et puis vous avez le croisement avec l'autre point de vue, c'est les substances rationnelles. C'est le croisement des deux personnages. Oui, il dit simplement ça. Croisement des deux. Dans la personne, il y a les deux. Il y a un nœud. Il y a un nœud particulier. Il y a d'une part la substance individuelle, la substance individuelle, et ça, Saint Thomas insiste beaucoup, substance individuelle, d'une nature rationnelle, ou d'une substance rationnelle, il y aura les deux, d'une nature rationnelle. Et donc, c'est le croisement des deux. Et c'est ça la personne. Alors, vous pouvez influer sur l'un ou l'autre. La personne, substance individuelle, oui, d'une nature rationnelle. Ou vous pouvez dire, substance rationnelle dans son individualité. C'est curieux que Saint Thomas fait le jeu des deux. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir tout simplement le croisement des deux. Vous avez deux aspects sur lesquels vous voyez ça. Mais Saint Thomas ne nous dit pas comment ça peut se réaliser. C'est ça qui est intéressant pourtant. Qu'est-ce qu'il ne nous le dit pas? Il affirme tout le temps ces deux aspects-là. Et en se faisant ça, il essaie de comprendre le fondement, et c'est intéressant, il essaie de comprendre le fondement métaphysique de la personne. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que pour Saint Thomas, je passe de la logique au fondement métaphysique de la personne. Et le fondement métaphysique de la personne, c'est la substance individuelle. C'est l'individu. Une personne, c'est un individu. Vous voyez, quand Maritain oppose personne et individu, il est tout à fait en opposition de Saint Thomas. Je ne peux pas opposer les deux, puisque la personne implique l'individu. Essentiellement, substance individuelle. Saint Thomas insiste, insiste, insiste là-dessus. D'une nature rationnelle. C'est très vrai. D'une nature rationnelle. Donc il insiste autant sur l'aspect rationnel, les deux. Alors maintenant, nous sommes donc en présence de l'article suivant. La personne est donc bien res naturae, subsistance et hypostase, mais dans les substances rationnelles. Alors, j'espère que vous comprenez. Vous ne pouvez jamais saisir intuitivement la personne, et c'est ça que Saint Thomas nous montre. Je ne peux pas saisir intuitivement la personne, je suis obligé d'avoir cette double vision. Et le croisement, personne. Réfléchissez en vous. Vous avez en vous une res naturae, une substance individuelle, même si vous n'êtes pas très intelligent. Vous avez ça. Et puis vous avez la rationalité qui pousse de temps en temps. Alors quand elle pousse et qu'elle rencontre la res naturae, quand elle pousse et qu'elle rencontre la substance individuelle, ah, personne. Elle flash personne. Mais quand vous continuez de dormir, hein, et que vous êtes la substance individuelle seule, hypostase, res naturae, subsistant, vous voyez, c'est tout, c'est un monolithe. Mais quand il y a la substance rationnelle, ah, super ça. C'est très beau, ça. Cette rencontre des deux, ce croisement des deux qui fait quelque chose de particulier. Mais vous voyez, on aimerait pousser un peu. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est très bien de dire ça, mais métaphysiquement, comment ça se fait, ça? Comment cette rencontre des deux? Il ne dit pas. Simplement. Il affirme, il affirme, il affirme. C'est très beau. Hein? Il faut bien saisir que le nom de personne signifie la substance, et donc elle est dite ad se, et non ad altero. Saint Thomas le dit explicitement. Il signifie la réalité subsistante dans telle nature et donc exprime quelque chose d'incommunicable. La substance, la personne est un tout incommunicable. Vous avez toujours le droit de dire à celui qui veut vous analyser: je suis inanalysable. Je suis incommunicable. C'est la manière de jeter du poids, de la poix sur celui qui veut vous attaquer. Là, non, je suis incommunicable. Je suis quelque chose d'unique au monde. Chaque personne est quelque chose d'unique au monde. Et elle prend conscience qu'elle est unique au monde. Vous voyez, quand elle est dans un troupeau, ce n'est pas commode. Hein? Parce que la personne est unique au monde, elle a quelque chose d'unique. La nature, elle peut être troupeau, mais pas la personne. Il y a dans la personne quelque chose d'unique. Puisque la personne signifie ce qui est le plus parfait dans toute la nature, subsister dans la nature rationnelle, on peut l'attribuer à Dieu du fait que son essence contient toute perfection. Très net pour Saint-Homme. Question 29, article 3. L'article 3. Je peux l'attribuer à Dieu. Parce qu'elle implique toute perfection. C'est un tout qui est un sommet, la personne. Donc c'est un tout. La personne est toujours un tout. C'est un tout qui est un sommet, donc qui contient toute perfection. Et donc je peux l'attribuer à Dieu. Tout ça, c'est l'intelligence philosophique. Hein. Selon l'origine sémantique du nom, le nom personne ne peut convenir à Dieu, mais selon l'usage de la signification du mot, c'est différent. Comme c'est intéressant, ça. C'est important, ça, pour les philologues. Hein. Selon l'usage sémantique, vous voyez, on pourrait dire la même chose à propos de l'être. Selon l'usage sémantique, l'être ne peut pas s'attribuer à Dieu, mais selon l'usage du mot habituel. Alors quand vous réduisez toujours, selon l'usage sémantique, le langage, ça ne va plus, parce que le langage doit se prendre du côté de l'usage. Mais selon l'usage de la signification du mot, c'est différent. Le mot personne, en effet, indique une dignité. Car il est d'une très haute dignité de subsister dans une nature intellectuelle. Le mot personne convient donc parfaitement à Dieu, ce qui implique la dignité. Ce qu'une postase ne dit pas. Évidemment, Dieu est dit personne selon un mode plus excellent, et le plus excellent qui soit. On ne peut pas découvrir la personne de Dieu d'une façon plus parfaite que le point de vue de la personne. Saint Thomas précise à l'article suivant ce qui caractérise la personne divine. Donc article 3. Et voici ce que dit Saint Thomas. En répondant à une objection selon laquelle la définition de la personne donnée par Boèce ne pourrait pas convenir à Dieu, Saint Thomas montre que les expressions rationalis naturae, en comprenant rationalis comme intellectualis, individuum uniquement en tant qu'impliquant l'incommunicabilité, et substantia en tant qu'elle signifie exister par soi. Vous voyez, c'est très important de voir la purification de ces trois aspects. Peuvent convenir à Dieu, et il ajoute que, cependant, certains ont dit que la définition de Boèce ne pouvait pas convenir aux personnes divines. C'est pourquoi Richard de Saint-Victor, voulant corriger cette définition, a dit que la personne, selon qu'elle est dite de Dieu, est une existence incommunicable de nature divine. Vous voyez, alors quand je dis ça, évidemment, c'est plus la définition de la personne. Parce que je ne peux pas mettre nature divine dans le point de vue de la personne. Mais je mets nature intellectuelle. Et Saint Thomas corrige lui-même, c'est intéressant, hein. Donc quand il dit rationalise, pensez intellectualise. Il le fait, donc nous devons comprendre. En Dieu, personne et individu ne font qu'un. Ça fait partie de la simplicité de Dieu. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon le modus significandi. En Dieu, nature essence, personne ne fait qu'une seule réalité, qu'une res naturae. C'est Dieu. Mais selon le mot doux significandi, alors ça c'est très très important à comprendre, hein. Selon le mot doux significandi, le mot nature et le mot personne ne signifient pas la même chose. Alors le mot doux significandi, vous voyez ce que ça veut dire? La manière de signifier. Mon intelligence n'a pas l'intuition de l'être. Mon intelligence n'a pas l'intuition de Dieu. Donc, je monte vers Dieu par des voies d'accès différentes. Et chacune de ces voies d'accès est marquée du mot doux significandi. La manière de signifier. Quand je signifie Dieu par le mot essence, quand je signifie Dieu par le mot personne, le mot doux significandi est différent. Et c'est toujours la même réalité, la même res qui touche. Vous voyez comme c'est important, ça. Si vous n'aviez pas la distinction entre appréhension et jugement, vous ne pourriez pas faire cette distinction. Le mot doux significandi regarde l'appréhension et le jugement regarde la réalité existante. La res existante, hein? La res existante. Dieu, jugement d'existence. Le mot doux significandi, c'est ma manière de purifier mes concepts pour aller jusqu'à Dieu. L'appréhension. C'est sûr qu'au point de vue métaphysique, au point de vue théologique, l'appréhension passe devant, vous voyez? Parce que l'appréhension me donnera la ratio significandi. La ratio, elle est saisie du côté de l'appréhension. Le jugement s'arrête aux manières d'exister. S'arrête aux manières d'exister. Tandis qu'au contraire, l'appréhension passe devant. Et c'est pour ça qu'en théologie, on aura tendance de regarder toujours l'appréhension comme principale par rapport au jugement. Parce que l'appréhension a quelque chose de simple, alors que le jugement a un mode composé. Et donc, je vais plus immédiatement vers Dieu par l'appréhension. Et vous voyez le danger aussi. Mais c'est vrai, si je maintiens toujours les deux, c'est que les purifications se font par rapport au mot doux significandi, pour saisir la ratio que je vais attribuer à Dieu. Je veux attribuer à Dieu la ratio personae. Or, la personne que je saisis, c'est moi, hein? Ou c'est mon voisin, quoi. Bon. Et je vois cette personne, elle est limitée. Comment je puis attribuer à Dieu la ratio personae? Dire Dieu est une personne. Il faut donc purifier ma raison de personne le plus possible pour montrer que la raison de personne n'implique aucune imperfection. Elle n'implique aucune imperfection. Aucune imperfection du côté de la substance, aucune imperfection du côté de l'individu, aucune imperfection du côté rationaliste. Puisqu'il y a les trois. Il y avait saisi toujours la personne, les trois. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Substance, individu, rationaliste. Et saint Thomas, petit texte que je vous citais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est si intéressant. Et si intéressant à bien voir, parce qu'il nous montre bien comment saint Thomas montre que ces trois notions n'impliquent en elles-mêmes aucune imperfection. Donc je peux les attribuer à Dieu. N'impliquent en elles-mêmes aucune imperfection, si on les comprend bien. Parce que si je prends substance individuelle d'habitude, je dis individuelle, ah, c'est la matière. Vous voyez, je suis un peu gros. Je dis, ah, c'est la matière, donc je peux attribuer à Dieu l'individu. Attention, qu'est-ce que ça veut dire l'individu? L'incommunicabilité. Un individu, c'est incommunicable. Ça va loin, ça. Tout ce qui est communicable n'est pas individuel. Hein? Tandis que l'individu, c'est l'incommunicabilité. Et le point de vue de la substance, c'est ce qu'elle prend dans l'être. Et le point de vue rationnel, c'est l'intelligence. Vous attribuez à Dieu. Enfin, vous avez compris que l'individu, c'est l'incommunicabilité, le point de vue de la substance est pas bien. Vous très bien attribué à Dieu. Vous avez purifié la raison de personner. Et c'est ça qu'il faut essayer de saisir, c'est cette purification de la raison de personne. Alors, je termine. En Dieu, personne et individu ne font qu'un. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon le mot doux significandi. La personne signifie per modo. La personne est signifiée per modo subsistentis. Alors que le nom d'essence n'est pas signifié per modum subsistentis. Il est signifié selon le mode simplement de la détermination. Le nom propre de chaque personne divine signifie ce par quoi cette personne est distincte des autres. Ainsi, c'est la paternité qui distingue le Père des autres personnes divines. Et par là, nous allons entrer alors dans cette nouvelle signification de la personne que saint Thomas donne dans le mystère de la très sainte Trinité. Nous allons entrer dans le mystère de la personne. Jusqu'ici, nous ne sommes pas restés dans... Ce n'est pas le mystère, tout ça. Je peux très bien comprendre. J'attribue à Dieu, si Dieu est l'être premier, si Dieu est l'être imparfait, il est nécessairement une personne. Ça, c'est très important de le comprendre. Hein. Et aujourd'hui, je vous affirme, des quantités d'intellectuels le refusent. Hein. Alors, il faut pouvoir l'affirmer. Dieu est essentiellement une personne. Pourquoi? Parce que le mot personne implique substance, individu, rationnel. Ça, vous allez commencer à le savoir. Hein. Mais il s'agit de le secouer dans tous les sens, hein, pour le savoir. Et pouvoir jongler avec. Et pour jongler avec, substance qui est premier dans l'ordre de l'être, individu, ce qui est incommunicable, rationnel, intelligent. Bon, les trois n'impliquent aucune imperfection. Je peux donc les attribuer à Dieu. Et je peux dire que Dieu est la personne par excellence. Ceci n'implique pas de mystère. Mais c'est dès que j'essaie de l'attribuer aux trois personnes divines que le mot personne va éclater complètement. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.